dans le psaume 40. On le lit déjà dans son entièreté, je vais juste en lire quelques versets pour s'introduire. Le psaume 40, j'ai appris hier que le milieu de la Bible, le livre du milieu c'est les psaumes, mais le verset en plein milieu c'est psaume 118:8. Ceux que ça intéresse. Tu sais, il y a le Genèse en 1, il y a Apocalypse 22, tu sais, le dernier, ben en plein milieu, là. Si on compte tous les mots, là, puis on s'en va comme ça vers le milieu. Psaume 118:8. Donc, on va lire les versets 1 à 11. Comme je l'ai dit, on a déjà lu le chapitre au complet. Mais pour s'introduire avec ce qu'on va voir ce matin, on va commencer avec les versets 1 à 11. Au chef des chantres de David, psaume. J'avais mis en l'Éternel mon espérance. Il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte. Ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel, tes bontés et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Seigneur, on te remercie de ce qu'on peut prendre ce temps avec ta parole vivante qui porte du fruit. Et c'est notre prière, Seigneur, que tu fasses porter du fruit en abondance avec ce que tu as pour nous ce matin. Esprit du Dieu vivant, c'est toi qui enseignes, c'est toi qui parles, c'est toi qui convainques. Que ton peuple entende la voix de son berger. Que les perdus voient leur réelle condition face à toi. Et qu'ils voient Christ, haut, élevé, sur la croix du calvaire comme étant le seul espoir pour leur vie. Et qu'il est vivant en ce moment pour sauver quiconque s'approche de lui par la foi. Seigneur, on s'en remet entre tes mains pour que tu fasses ton œuvre à ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le thème de juillet, c'est que Dieu révèle les cœurs. Et c'est un thème qui est riche, j'aime bien. Et je vais vous expliquer un peu en introduction comment le Seigneur m'a dirigé vers le psaume 40. D'abord, au verset 4, vous connaissez, hein, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à mon Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. » Je crois que c'est le cœur de ce psaume. Même si c'est au tout début, on voit vraiment c'est la pensée centrale et c'est un psaume de confiance, un psaume qui invoque l'Éternel et qui raconte ses louanges. Et j'aimerais développer dans le message un principe que, je pense que je l'avais dit dans le message, juste dans des conversations comme ça. Mais en parlant avec ma femme et tout ça, puis c'est quelque chose qu'on parlait dernièrement. Donc, si je vous, pour être clair, j'ai volé ça de ma femme. Okay? Pas le message, mais l'idée, OK? Mais c'est pas grave, on a le droit de faire ça. J'ai pas vu de verset qui dit qu'on n'a pas le droit. Voici le principe, comment ça va, c'est simple. La délivrance de Dieu est précédée par notre louange et notre action de grâce. Et là, je vais vous expliquer pourquoi. Le principe, c'est ça. La délivrance de Dieu est précédée de notre louange et de notre action de grâce. Autrement dit, c'est comme si Dieu attendait. Oui, Dieu attend. Dieu, il sait toutes choses, là. Mais Dieu veut nous amener au point précis où est-ce que nous le louons, nous lui rendons grâce avant qu'il opère sa délivrance. Et c'est ce que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui avec le Dieu qui révèle la louange du cœur. Dieu nous amène dans des situations. Il nous amène dans la fosse de destruction, dans le fond de la boue, pour qu'en criant à lui, non seulement on l'invoque puis on crie à lui, mais qu'il mette un chant nouveau dans notre cœur, une louange à notre Dieu, pour que beaucoup en aient le voix et de la crainte et qu'ils eux aussi se confient en l'Éternel. On voit ça dans différentes places dans les Écritures, on le voit de façon imagée, on le voit aussi dans des principes, par exemple dans Philippiens 4. Vous connaissez Philippiens 4, 6? Il dit que on ne doit s'inquiéter de rien, mais en toute chose, faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Après ça, après l'ensemble du verset 6, là, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. Voyez-vous? La louange précède la délivrance. Paul et Silas chantaient en prison avant que Dieu les délivre. Jonas dans le ventre du poisson. Si on lit en fait comment sa prière finit lorsqu'il est dans le ventre du poisson, ça dit « Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Et qu'est-ce qui arrive tout de suite après, verset 11? « L'Éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonas sur la terre. » Je pense que ce n'est pas un hasard. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on voit qui est constant dans les Écritures. Maintenant, en dehors des Écritures même, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut être d'accord ce matin qu'en 2020 et 2021, est-ce que le Seigneur a permis qu'on vive, est-ce que la délivrance spirituelle de la joie, de la paix, de la communion réelle qu'on vit, de ce qu'on voit Dieu faire, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand on a arrêté de chialer, quand on a arrêté d'avoir peur, puis quand on a arrêté de chialer, puis qu'on s'est simplement dit à Dieu, merci Seigneur, puis à le célébrer pour sa bonté puis sa grâce. Je pense qu'il y a mis à se passer des affaires vraiment réelles, puissantes à ce moment-là. Dieu attendait la louange de nos cœurs, l'action de grâce, puis il s'est mis à faire des choses extraordinaires. Maintenant, pourquoi il en est ainsi? Pourquoi c'est ce principe-là, la louange précède la délivrance? Bien, juste comme petite piste ici de réponse en introduction, je pense que la liberté spirituelle précède celle qui est physique. Et Dieu délie nos cœurs avant de délier la situation, parce qu'on va avoir toutes les choses qu'on voudrait, mais si dans notre cœur on est esclave de notre amertume, notre colère, notre inquiétude, on n'est pas d'avance. Une autre chose, pourquoi que ça fonctionne ainsi? Parce que Dieu est plus intéressé aux problèmes de nos cœurs dans les situations qu'on vit, parce que nos cœurs et nos réactions, c'est ça qui va envenimer la situation, comment on est dans notre cœur. C'est ça qui va faire que les choses vont aller de mal en pire. C'est pour ça que Dieu veut opérer une délivrance spirituelle dans notre vie. Avant, tu sais, la délivrance qui vient de la louange, de dire « Merci Seigneur, tu es au contrôle, tu sais ce que tu fais. » Et une autre raison pour laquelle je crois que Dieu opère ainsi dans nos vies, c'est parce que Dieu utilise le problème physique pour révéler le spirituel. Quand on vit des choses comme ça, Dieu peut dire « Ah ouais, c'est vrai, t'es malade, t'as ça. » Puis, en Dieu, il y a des choses qu'il veut révéler à nos cœurs, puis qu'il veut révéler dans notre Église, qu'il veut révéler dans nos relations. Dieu révèle les cœurs. Et je pense que ça démontre, pour revenir à notre texte, que Dieu utilise des situations comme au verset ici, c'est David qui écrit, hein? Il avait mis sa confiance en l'Éternel, il avait attendu patiemment la délivrance de l'Éternel. Puis Dieu s'est incliné vers David, il a écouté ses cris, l'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, a dressé ses pieds sur le roc. J'aime cette image. Quelle image! Dresser les pieds sur Christ, le roc de notre salut. Il a affermi mes pas. Dieu utilise des choses comme ça pour soutirer de nos lèvres un sacrifice de louange. Le fruit de lèvres qui confesse son nom. Pourquoi? Parce que Dieu veut révéler, à travers ces choses-là, Dieu veut révéler sa vie. Il veut révéler dans ses enfants qui, lui, il est. Sa vie, la beauté de sa vie, la beauté de Christ, et non pas la mort de notre amertume, de notre mécontentement, de notre incrédulité, de notre orgueil. Donc, Dieu révèle la louange de nos cœurs. Et c'est une puissance de délivrance qu'on a là. Lorsqu'il y a une louange dans nos cœurs, il y a une liberté, il y a une paix qui surpasse toute intelligence, une joie ineffable. En fait, Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire, d'unique, d'incomparable qui se passe lorsque Dieu fait ça. Et ce que j'aimerais qu'on regarde ce matin avec le psaume 40, c'est trois façons par lesquelles Dieu révèle la louange des cœurs. Trois façons par lesquelles Dieu révèle la louange des cœurs. D'abord, Dieu révèle la louange des cœurs par l'attente de la foi. Je vous ai fait remarquer que dans certaines versions, je n'ai pas fait tout le tour des versions, mais je sais que dans une des versions anglaises, ça dit « J'avais mis mon espérance en l'Éternel. I waited patiently. J'ai attendu patiemment la délivrance de l'Éternel. J'ai attendu patiemment l'Éternel. » Et l'attente de la foi, on voit ça ici dans ce psaume, mais je pense qu'un des passages les plus... Moi, c'est un de mes passages préférés de toute la Bible. Remarquez comment ça ressort, cette idée d'attente de la foi, dans Lamentations chapitre 3. « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repenser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. » Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. C'est la volonté parfaite de Dieu de nous amener à une situation où est-ce que tout ce qu'on a, c'est s'attendre à lui, rien d'autre. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on désire, c'est lui. Lui comme étant celui qui est la solution. L'attente de la foi. Et cette attente de foi va opérer dans la vie de ceux qui l'expérimentent une délivrance spirituelle de la joie dans la louange. Lorsqu'on s'attend à Dieu, Dieu va nous donner une joie ineffable. Lorsqu'on a cette attente de la foi envers lui, lorsqu'on met en lui notre espérance, comme on l'a vu, on n'est pas déçu. Pourquoi? Parce que celui qui croit en lui n'est point confus. Celui qui s'attend à l'Éternel, il ne va pas rester comme si les choses étaient comme avant. Dieu va faire de quoi? C'est ça l'attente de la foi. Et maintenant, ce que j'aimerais vous dire ce matin, l'attente de la foi, c'est la première et peut-être la plus difficile des étapes de la victoire de notre vie chrétienne, parce que c'est souvent là que beaucoup d'entre nous, on ne passe pas au-delà de ce stade. Un peu comme, vous savez, le roi Saül a attendu que Samuel vienne pour le sacrifice, mais il n'a pas attendu jusqu'au bout. Et nous, des fois, on attend, puis à un moment donné, quand ça devient, voyons, ça finit plus de finir, puis c'est long, on flanche. Et on arrête de s'attendre à Dieu. Et ça bloque ce que Dieu veut faire dans nos vies, parce que nos attentes, le problème, c'est quoi? Nos attentes ne sont pas les mêmes que celles de Dieu. On a vu ça la semaine passée dans le message de l'après-midi. Vous savez que Dieu nous dit clairement dans sa parole, hein, si vous voulez essayer de mettre Dieu d'accord avec vous, là, ramenez-vous à Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Des fois, on a des attentes. On a vu la semaine passée que nos attentes, des fois, sont déçues. Nos attentes peuvent être différées. Et nos attentes sont tout simplement différentes de ce que Dieu, lui, veut faire dans nos vies. Et là, il y a un choc, un clash entre nos attentes puis le plan de Dieu. Ou entre, si vous voulez, ce que Dieu veut faire puis ce que nous, on s'attendrait à ce que lui veut faire. Et là, veut qu'il fasse. Et donc, le problème ici, c'est que notre orgueil, notre incrédulité, soit résiste au plan de Dieu, ou insiste sur nos propres plans pour qu'ils soient faits. Et ça nous dérobe de la joie de se reposer dans la volonté de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, la volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Il n'y a rien de mauvais dans la volonté de Dieu. Mais lorsqu'on n'attend pas comme ça par la foi jusqu'au bout, ça nous dérobe la joie d'être dans cette volonté, puis de savoir d'être dans sa volonté. Pensez-y bien. Nous recherchons tous la joie, n'est-ce pas? On veut tous avoir la joie puis le bonheur. On a même ici des gens qui connaissent bien les États-Unis. Vous savez ce que ça dit dans la déclaration d'indépendance? Il y a une phrase qui dit, puis des fois on voit ça sur des murs ou tout ça. Life, liberty and the pursuit of happiness. La vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Ça fait partie de leur déclaration d'indépendance. C'est dans la nature humaine de chercher ces choses. Et je dirais qu'il y a même un fondement biblique à ça. Le problème, c'est lorsque ces choses, c'est comment on les cherche, où on les cherche et pourquoi on les cherche. Le but peut être bien noble, mais la motivation fait toute la différence. Parce que si je recherche le bonheur, la liberté, ces choses-là, à ma façon, sans m'attendre à Dieu, je vais passer à côté. Si je les recherche dans le monde et non pas en Dieu, encore là, je passe à côté. Si je les recherche pour moi-même, pour mes buts, pour mes projets, mes plans, je ne m'attends pas à Dieu. Et donc, ce n'est pas l'attente de la foi, ça ne peut pas lui être agréable. Voilà pourquoi ce n'est pas possible d'expérimenter la délivrance spirituelle de la joie du Seigneur si on ne s'attend pas à lui. C'est la première chose. La deuxième que je veux qu'on regarde, c'est dans les versets 7 et 8. Non seulement on a vu l'attente de la foi, mais il y a aussi le désir de la foi. Dieu révèle la louange des cœurs par le désir de la foi. Regardez les versets 7 à 9. « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Je veux faire ta volonté. On sait que ce passage est messianique, on va y revenir dans un instant. Mais qu'est-ce qui est agréable à Dieu plus que les sacrifices? C'est lorsque de cœur on désire faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que ça, c'est par la foi. Parce que ça ne fait pas du bon sens humainement de vouloir faire des choses qui vont contre mon instinct de préservation, contre mes plans, contre ce que moi je veux. Mais lorsque je veux faire la volonté de Dieu, ça, c'est pas ça qui est important. C'est plaire à Dieu, faire sa volonté. Et c'est notre accès à Dieu. La foi nous donne accès à Dieu. Et c'est comme ça que Dieu va opérer dans notre vie la délivrance de la victoire. La délivrance de la victoire, non seulement avec l'attente de la foi, on a la délivrance de la joie, mais ici avec le désir de la foi, on a la délivrance de la victoire. Pourquoi? Parce que lorsque je désire Dieu et sa volonté, mes désirs sont captifs aux siens. Là, on connaît ce verset que Dieu amène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, toute pensée captive à sa volonté. Et au verset 9, on a lu que la loi est au fond du cœur de David qui a écrit ce psaume. Et ça, je crois que c'est la source du désir de la foi, parce que la parole de Dieu qui est vivante, ça a été cité ce matin. Mais je vais le répéter parce que c'est tellement un beau verset, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager esprit, âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Dieu va créer le désir de la foi par sa parole, parce que sa parole est vivante. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, pour avoir ce désir de plaire à Dieu, ce désir de tout ce qui est de Dieu, c'est avec sa parole. Puis regardez ce que ça dit aussi dans les versets 7 et 8. Ça dit, tu ne désires, tu ne demandes. Dieu a des choses qu'il ne veut pas, c'est pas ça qu'il demande. OK? Ça dit, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Autrement dit, Dieu désire plus une relation, une communion que le service de ses enfants. Parce qu'évidemment, un n'exclut pas l'autre. Okay? Si on est en communion avec Dieu, ça va faire notre joie de le servir. Mais la relation doit précéder le service pour être agréable à Dieu. Sinon, c'est un service vide, un service dépourvu de sens. Pourquoi? Parce que Dieu désire plus qu'on fasse sa volonté qu'on serve d'un cœur vide d'amour. D'ailleurs, en ce sens, quand ça dit ici, « Tu m'as ouvert l'oreille », tu m'as ouvert l'oreille. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose ici. Lorsqu'on a le désir de la foi, Dieu nous ouvre l'oreille entendent sa voix. Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Et notre désir, c'est de suivre notre bon berger parce qu'on l'aime, parce qu'on lui fait confiance, parce qu'il est notre vie. C'est ça la vraie victoire spirituelle. C'est ça que Dieu donne à ceux qui le suivent. Des désirs régénérés. Et ça, c'est pas naturel. Je me rappelle quand j'ai été sauvé. Mon ami, Dieu a complètement tout viré mon monde à l'envers. Ce que j'aimais faire avant, je voulais plus rien savoir de ça. Puisque j'aurais rien voulu savoir avant, c'est ça que je voulais. Parlez-moi pas avant, j'avais dit, mais mon ami, je ne vais jamais mettre les pieds de ma vie dans une église. Ha! Dieu a-tu le sens du mot pareil, hein? Mais c'est la transformation de l'Esprit de Dieu. Maintenant, je veux juste amener un peu... J'ai dit que j'allais revenir au fait que ce psaume est messianique parce qu'il est cité dans Hébreux 10. Et je vais vous citer Hébreux 10 puis ce qui vient par la suite parce qu'il y a quelque chose à apprendre là-dedans. Donc, juste si je prends la citation dans Hébreux 10, elle dit « C'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit... » Puis là, on a notre psaume. « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. » Alors j'ai dit, voici, je viens dans le rouleau du livre qui est écrit pour moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et là, l'auteur d'Hébreux continue en disant, après avoir dit, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Et là, je lis encore dans Hébreux. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Christ une fois pour toutes. Qu'est-ce qu'on apprend avec cette citation du Nouveau Testament? Ça nous rappelle que le désir de la foi est nouveau. Dans le sens où est-ce que ça l'accomplit, ça remplace, ça supprime l'ancien, celui de la loi. La loi produit la conviction de péché, nous conduit à Christ. En fait, la loi nous montre comment on est toujours, toujours à tomber à court de cette volonté parfaite. La loi, c'est la révélation de la volonté parfaite de Dieu. Et ça nous montre que nous, en tant que pécheurs, on passe toujours à côté. On manque toujours la cible, pour prendre un mot qui définit le péché dans la parole. Et donc, qu'est-ce que cette situation-là nous dit? Que un est supprimé et c'est pour établir l'autre. La loi est remplacée par la grâce. La loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ. Et cette grâce-là, on y a accès au moyen de la foi. Parce que le désir pour Dieu, pour sa loi parfaite, que produit la grâce... on y a accès au moyen de la foi. Et donc, on n'a plus besoin d'aller aux rudiments, aux choses élémentaires de l'Ancien Testament. C'est pour ça que Dieu nous a donné un cœur nouveau. On l'a cité la semaine passée ici, ce verset-là dans Ézéchiel. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le corps de pierre et je vous donnerai un corps de chair. » Alors, mes amis, si vous êtes ici et vous avez goûté que le Seigneur est bon, que vous avez expérimenté qu'en attendant la délivrance de l'Éternel, ce n'est pas en vain, que Dieu place nos pieds sur le roc, qui met dans notre cœur un cantique nouveau, et qu'à cause de ça, maintenant, notre désir le plus grand, malgré qu'on pêche, malgré qu'on lutte, que notre désir le plus grand, c'est de faire la volonté de Dieu. Je veux faire ta volonté. Lorsque on a goûté de cette manière que l'Éternel est bon, ou pour le prendre dans, encore là, dans les, c'est une citation du Nouveau Testament, mais pour le prendre dans les mots de l'Ancien Testament, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 34:9. Quand ça arrive, mes amis, quand on a cette attente de la foi qui n'est jamais en vain. Quand on a ce désir de la foi, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un chant nouveau dans notre cœur qu'on ne pourra pas garder pour nous-mêmes. Et ça m'amène à la troisième façon par laquelle Dieu révèle la louange des cœurs, par la proclamation de la foi. Dans les versets 10 et 11, « J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. L'Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut, je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Ici, on voit l'expression d'annoncer, de ne pas retenir dans le cœur et tout ça. Ça fait écho un peu avec ce qui avait été dit au verset 6 par rapport à publier, proclamer la bonté de Dieu. Et dans le fond, c'est l'expression de la foi dans la victoire qui est dans le nom de Jésus-Christ. Savez-vous, pour nous, les chrétiens, le nom de Dieu est quelque chose de vraiment unique. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Un autre passage nous dit, puis ça a été cité tantôt par Camille, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Écoutez aussi ce psaume. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et que dire du psaume 18:10? Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel. C'est ainsi qu'on exprime notre confiance en Dieu, dans ce nom qui est au-dessus de tout nom. Et lorsqu'on proclame ça, lorsque c'est ça tout l'objet de notre confiance, ce nom qui nous révèle qui Dieu est, Jésus-Christ, Dieu loin de l'Éternel, sauve, ça l'opère la délivrance de l'assurance dans notre vie. On a une assurance devant Dieu, comme ça en parle dans 1 Jean au chapitre 3. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui, car si notre cœur nous condamne, et ça l'arrive, n'est-ce pas? Dieu est plus grand que notre cœur, il connaît toutes choses. Dieu nous donne une assurance devant lui qui nous donne l'hardiesse de proclamer qui il est. Sa grande délivrance, sa grande bonté envers nous. J'expérimente ça, vous savez, d'une façon vraiment extraordinaire. Dans les occasions dernièrement que le Seigneur m'a donné de proclamer son nom, on vit dans un grand temps de confusion. Les gens sont mêlés, ils se demandent ce qui arrive. Je me suis fait souvent demander, « Hey, coudonc, j'ai eu le vaccin, c'est-tu la marque de la bête? » Les gens, ils ne savent plus trop où se garrocher avec tout ça. Je suis content de pouvoir proclamer avec assurance que même si on ne comprend pas tout, même si on ne peut pas... Savez-vous quoi? Le plus important, c'est que le salut vient de l'Éternel et que sur cette terre, on ne sait peut-être pas tout ce qui va arriver, mais que quand on croit en Christ, on n'est pas confus. Amen. Et je suis content de pouvoir proclamer ça aux gens qui souvent ne savent plus où se garrocher, ne savent pas trop quoi croire. Des fois, ils viennent de d'arrière-plan tout mêlé. Mais je peux proclamer la délivrance qui est en l'Éternel. Et quelle joie, quelle assurance! J'ai une assurance devant eux. Pas parce que j'ai quelque chose de moi-même, non, mais je prêche ce message qui ne change pas, qui est le seul espoir de ce monde, la proclamation du salut en Jésus-Christ. Amen. Et juste pour regarder un petit peu dans notre texte, vous savez, on l'a lu au début, mais je veux revenir sur, il y a un contraste entre les versets 15 et 16. Alors, regardez bien, je vais les lire, puis vous allez voir, entre versets 15 et 16 et versets 17 et 18. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte, qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de la honte, ceux qui disent « Ah ah ». Maintenant, regardez versets 17 et 18. « Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. » Il y a un contraste de confiance. Dans les versets 17, 15 et 16, c'est la confiance en soi. Des gens qui veulent opérer eux-mêmes leur vengeance, leur plan envers David. Peut-être que ça parle d'Absalom ici dans le contexte. C'est dur à savoir des fois avec les psaumes exactement quand ils ont été écrits, mais on sait que David avait des ennemis. Versus versets 17 et 18, ceux qui se confient en Dieu. On a l'impression qu'ils te cherchent, qu'ils aiment ton salut, qu'ils exaltent l'Éternel. Le fruit de ceux qui se confient en eux-mêmes, c'est la honte, la confusion, la stupeur qu'on a lu. Pourquoi? parce qu'ils subissent la promesse. Et vous savez, il y a des promesses, il y a des belles promesses, il y a des promesses qui sont épeurantes dans la parole de Dieu. Écoutez bien Jérémie 17, 5. Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme. Il y a une malédiction qui est rattachée ici à l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. C'est comme Dieu dit, ça ne va pas bien aller si c'est là qu'est notre confiance. Puis lorsqu'on persiste dans cette confiance mal placée, on va vivre ce qui est dans les deux versets que je vais vous lire, Ésaïe 2:22. Cessez de vous confier dans l'homme, dans les narines duquel il n'y a aucun souffle, car de quelle valeur est-il? Ou le psaume 144, versets 3 et 4. Éternel, qu'est-ce que l'homme pour que tu le connaisses? Le fils de l'homme pour que tu penses à lui? L'homme est semblable à un souffle. Ses jours sont comme l'ombre qui passe. C'est pas vraiment une valeur sûre. Peut-être pas du tout. Donc, où est ta confiance en ce moment? En ce moment, où est ta confiance? Est-ce qu'elle est dans le Dieu qui ne change pas, dans ses promesses? Ou est-ce qu'elle est dans quel que soit d'autre? Et je vais amener un point ici souvent qui révèle où est notre confiance. J'ai lu avant l'offrande, 1 Timothée chapitre 6. Et je veux le relire avec cette idée de confiance, parce que remarquez bien comment ça ressort dans ce passage. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Sinon, nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Jésus l'exprime en disant le trésor. Vous savez, un trésor, c'est où est-ce qu'on amasse beaucoup de biens. Et le trésor de notre cœur, c'est où est-ce qu'on amasse notre confiance. Si ma confiance est dans... Et ici, l'argent, ça parle de tout ce qui est ici-bas, de tout ce que ça procure, de tout ce qui est matériel. Si ma confiance est là, la Bible nous dit ici que ça l'amène à l'égarement et au tourment. Pourquoi? Parce que si je me confie en ça, je ne me confie pas en Dieu. Je ne peux pas servir Dieu et maman et l'argent. Et la réalité de ça, on le confesse nous-mêmes de nos lèvres par nos inquiétudes, par nos peurs, par notre refus à être généreux, à laisser Dieu accomplir sa volonté dans notre vie. Et je veux juste y amener un point. L'argent révèle où est notre cœur, d'une façon bien spéciale, bien réelle, bien transparente. Pourquoi? Parce que ça montre où est notre confiance. Et là-dessus, je veux juste vous lire en contraste encore un passage qui sort directement des lèvres de notre Seigneur. Où est-ce que Jésus, dans le sermon sur la montagne, dit « Ne vous inquiétez point. Et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » Mais regardez ce qu'il dit juste après. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses desquelles on peut s'inquiéter comme les païens vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Remarquez que dans les versets, si on retourne dans notre psaume ici, psaume 40, les versets 10 et 11 qu'on a lus nous parlent d'annoncer, de ne pas fermer les lèvres, de ne pas retenir notre cœur, de publier, de ne pas cacher la bonté de Dieu. Autrement dit, lorsqu'on expérimente la bonté de Dieu en se confiant en lui, on ne peut pas garder ça pour nous-mêmes. Et c'est ça l'idée ici. À quoi ça vaudrait la peine de mettre sa confiance en quoi que ce soit d'autre? Lorsque Dieu veut qu'on se confie en lui pour l'exprimer, lui, je veux dire, si je me confie dans les choses d'ici-bas, qu'est-ce que je vais avoir à raconter sur les louanges de l'Éternel? Et là, j'ai une illustration, je n'ai pas demandé l'autorisation pour ça. Peut-être qu'il aurait dit non, je ne sais pas. Je ne veux pas les faire sentir mal. Lui, je le dis en français, ils ne vont pas tout comprendre. Vous pourrez leur expliquer après, mais Dieu nous a envoyé à la famille Côte. Quelle bénédiction, amen! On est tellement contents. Est-ce que vous pensez que les Colts, puis là, c'est ça, je vais dire un peu des choses, c'est pas caché, mais... Pensez-vous qu'ils regrettent le fait que par la foi, ils ont tout quitté avec... Il n'y a même pas la moitié de leur soutien. Je veux dire, humainement parlant, ça n'a comme pas de bon sens, ça, là. Savez-vous qu'ils ne l'ont même pas choisi? C'est Dieu qui a fait ça. Je veux dire, Dieu a fait qu'elle est tombée enceinte, deux jumeaux, puis là, il était supposé être sur la route tout ce temps-là. Je ne sais pas, vous savez, mais enceinte avec des jumeaux, c'est pas idéal. Puis accoucher sur la route, c'est pas non plus idéal. Pensez-vous qu'ils sont au-dessus des peurs et des inquiétudes par rapport à l'argent? Surtout dans leur situation où est-ce que, en ce moment, ils avaient prévu, ils étaient supposés d'aller voir des églises autour, puis essayer d'avoir... Puis là, humainement parlant, là, ils peuvent, c'est comme, il y a un stop à ça. Parce que ça se pourrait qu'elle accouche au mois de septembre, puis si... sont en Ontario encore là, et c'est en route ou dans les maritimes, ça fait un petit peu loin. Pensez-vous aussi que c'est pas Dieu dans sa grande bonté qui nous les envoie, ce beau petit couple, cette belle petite famille, pour nous enseigner quelque chose par rapport à lui-même, pour nous enseigner à proclamer les bontés de l'Éternel. Est-ce que vous ne pensez pas que Dieu veut les utiliser pour nous enseigner quelque chose de précieux, d'inestimable sur la foi? Moi, je suis convaincu. Je réponds à toutes ces questions avec un retentissant oui. Maintenant, je crois que le Seigneur répond ainsi à quelque chose. À quelque chose dans notre Église, à un besoin réel, à un problème. Est-ce que notre trésor est vraiment aussi... Est-ce que vous auriez été prêt à faire ça? Je veux dire, c'est au point qu'ils visitaient les églises des fois, puis c'était gênant. « Ouais, OK, on s'en va au Québec, puis on a 20 % du soutien. » C'est comme, t'es fou, t'es irresponsable. Mais, comme je vous dis, mais est-ce que le Seigneur ne veut pas se servir de ça pour révéler où est notre trésor, où est notre confiance, ou pour prendre une image différente ici, dans Jacques, au chapitre 1, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Mes amis, si notre confiance est partagée, ce n'est pas une confiance en l'Éternel. Une confiance mitigée, c'est une confiance qui est incomplète. Ce n'est pas une confiance en l'Éternel. On aimerait se convaincre du contraire. Ben c'est mieux que rien. Non! Tu ne peux pas servir Dieu et maman. Si tu fais à moitié, tu vas le faire par défaut à la mauvaise façon. C'est vraiment... Il y a quelque chose là, mes amis. Maintenant, je sens dans mon cœur, dans mon esprit, que... C'est une question que le Seigneur, je vous ai déjà dit, j'aime pas parler d'argent. J'aime pas, parce que dans la position, ah, on sait bien, le pasteur veut de l'argent, puis il quête de l'argent, puis tout ça. En fait, tu veux quoi? C'est le Seigneur qui s'occupe de moi, de ma famille, puis... Mais il y a une responsabilité spirituelle. Quel est notre rapport à l'argent? Parce que notre rapport à l'argent révèle quelque chose sur notre cœur. Et je crois que il y a quelque chose que le Seigneur veut qu'on s'arrête dessus. C'est pour ça que, dernièrement, avant l'offrande, je dis, on va adorer le Seigneur avec nos offrandes. On va montrer où est notre trésor. Lire un passage. Pourquoi? Parce qu'il faut voir, ça fait partie, c'est un package deal avec comment on adore le Seigneur. C'est pas comme, ah, ça, c'est ta part, puis ça, ça m'appartient. Tout appartient à Dieu. Nous sommes au Seigneur. Tout. Et mes amis, il faut comprendre, le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est juste révéler le réel problème. Le problème, c'est l'orgueil, l'incrédulité qui bloque la confiance en Dieu et qui place sa confiance ailleurs. Et mes amis, pour retourner à notre texte, si le Seigneur touche à votre cœur par rapport à ça, relisons simplement les versets 1 à 4. S'il y a un blocage, est-ce que tu as mis ta confiance, ton espérance en l'Éternel, verset 2? puis qui s'est incliné, qui a écouté ton cri. Est-ce que verset 3, tu vis la délivrance de Dieu? Est-ce que il a retiré ton pied de la fosse, du fond de la boue? Il a dressé ton pied sur le roc, il a affermi tes pas. Mes amis, si c'est ça, tu n'as pas d'autre choix que chanter à l'Éternel, parce que c'est lui qui met dans ta bouche un cantique nouveau, une louange à ton Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, se sont confiés à l'Éternel. Mes amis, c'est ça le plus important. C'est pas l'argent, puis tout ça. Satan voudrait qu'on se bogue sur l'argent. Dieu veut qu'on regarde à lui, puis dire, regardez ce que moi, je suis, puis ce que moi, je veux faire au milieu de vous autres, qu'on laisse rien bloquer là-dedans. Ça mène à conclure avec les versets qu'on n'a pas encore considérés, et je les lis, puis je conclue avec ça. Verset 12 à 14. « Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. » Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours, car des maux sans nom m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. On a un frère qui prie ça souvent, ça ressort souvent, c'est un mot qui sort dans ses prières. Dieu, secours-nous. Dieu, merci, tu nous as secouru, le secours de l'Éternel. Est-ce que cette pensée de confiance dans le secours de l'Éternel remplit mon cœur ce matin? Est-ce que c'est là ma confiance? Est-ce que c'est là l'attente de ma foi? Est-ce que c'est vraiment ce que je désire? Puis pourquoi ça en serait ainsi? Parce que, mes amis, notre Dieu, c'est le Dieu du surnaturel. Il n'y a rien de normal avec Dieu. Je parlais avec quelqu'un dernièrement. Tu sais, puis on s'en est une situation un peu spéciale ici à l'église. Puis maintenant, on a un bel exemple. On a un beau melting pot de tout le monde qui vient de toutes sortes de places. Même que l'autre jour, je me disais, mais coudonc, je me sens mal. On dirait que qu'on prend des gens des autres églises, mais on les prend pas, c'est eux qui viennent. Puis une fois qu'ils viennent, bon, on les met pas dehors. Tu sais, ça arrête de la fou un peu. Ah, t'es pas dans notre église, t'as pas revenir ici. Ici, c'est un club célèbre. Mais en réfléchissant là-dessus, je me rends compte qu'il y a quelque chose. Dieu fait une œuvre, puis Dieu fait en sorte que les gens viennent ici. Il y a quelque chose de commun que les gens ont tous, c'est qu'ils veulent Dieu. Ils veulent lui. Puis ça, mes amis, moi, je ne demande rien d'autre. Si on a ça, ça veut dire tout le reste, ça va bien aller. Mais voici ce que je veux amener. Ça veut dire qu'on est pas mal du monde différent. C'est quoi si on s'assoyait dans un beau petit cercle, là, pour commencer à tout parler de nos opinions, là, ça se pourrait que ça l'écorche par bout. Mais voici ce qui est sorti de notre conversation. Puis ça a sorti par rapport à ça, ça a sorti aussi par rapport à d'autres affaires, mais il y a juste Dieu qui peut faire de quoi? Il y a juste Dieu qui peut faire de quoi? Est-ce que c'est vraiment la conviction de ton cœur ce matin? Puis là, j'ai pris l'exemple de l'Église, mais avec ta situation que tu es en train de vivre, est-ce que tu es convaincu qu'il y a juste Dieu qui peut faire de quoi? Mes amis, si ce n'est pas la conviction de ton cœur, c'est peut-être parce que justement, le blocage, tu n'es pas arrivé au point que de dire « Merci Seigneur que tu as voulu ça de même, que c'est impossible, que j'ai zéro issue à cette affaire-là. » Mais je te loue parce que justement, c'est juste toi qui peux faire de quoi. C'est ça que Dieu veut faire avec ce qu'on vit pour révéler la louange de nos cœurs. Dieu, t'as voulu ça de même? Wow! En ce moment-là, j'ai même plus de recours à gauche, à droite. Ma main gauche, ma main droite ne peuvent rien faire. Mais juste toi, le salut vient de l'Éternel. À cause de ça, je veux te louer. C'est quoi? C'est peut-être ça juste que Dieu attend dans ta vie pour opérer cette délivrance. Parce que Dieu est capable de dire, c'est pas un problème que Dieu est capable ou pas capable, mais Dieu veut nous amener au point où est-ce qu'on offre le sacrifice de l'Ève qui confesse son nom. Un sacrifice de louange. Est-ce que Dieu se sert de ce qu'on voit ce matin pour révéler qu'il n'y a pas de louange dans ton cœur, peut-être parce que Dieu n'y est pas? Ça nous dit dans Romains au chapitre 8, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Jim John me disait ça. Il n'avait pas appris toutes les choses, les mots chrétiens. Puis il me disait, pour dire un chrétien, il dit, il y a l'Esprit de Dieu. Celui qui m'a donné la Bible, il y avait l'Esprit de Dieu, lui. Puis il parlait d'un autre, il dit, je pense pas qu'il y a l'Esprit de Dieu. Ouais, ça veut dire, il est chrétien, pas chrétien. Dit, oui, c'est biblique comme expression. Quand on a l'Esprit de Dieu, on lui appartient. Si on ne l'a pas, on n'y appartient pas. Donc, sois honnête ce matin. Est-ce que cet Esprit de Dieu te convainc de péché, de justice et de jugement pour que tu rentres? Parce que tu es encore dehors. Sois honnête. Est-ce que tu as besoin d'invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé? Et si tu es ici et tu es sauvé? Si tu as expérimenté, tu as goûté comment le Seigneur est bon? Est-ce que ta vie est caractérisée par l'attente de la foi qui opère une délivrance, une joie qui est surnaturelle, une joie qui n'est pas normale, qui chante en prison, une joie ineffable qui ne dépend pas des circonstances, mais du Dieu qui est au-dessus des circonstances? Est-ce que tu as le désir de la foi qui opère dans ta vie cette victoire, un désir qui triomphe? Écoutez ce que ça dit dans 2 Corinthiens chapitre 4. « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Et est-ce que ta vie est caractérisée par la proclamation de la foi, que tu as quelque chose à raconter? Ce n'est pas juste des platitudes chrétiennes puis quelque chose qu'on dit parce qu'on est chrétien, mais tu veux juste raconter comment Dieu est bon dans ta vie, puis c'est ça qui sort de ta bouche, parce que c'est un chant qu'il a mis dans ton cœur. Il a mis tes pieds sur le roc, t'as sorti de la boue, il a enfermé tes pas, et maintenant c'est la seule chose que tu as le goût de raconter. N'est-ce pas ce qui est merveilleux? Quand on est avec des enfants de Dieu, des frères et sœurs dans le Seigneur, puis qu'on dit, « Wow, Dieu est-tu bon? Dieu a fait ça. C'est Dieu qui l'a fait. » Oui, je veux dire, « Makes my day, hein? » Il n'y a rien de plus que Dieu pour poser de parler en français. Là. Ça fait mon jour, vous savez. Mais voici sur quoi je veux terminer simplement. Vous savez, comme mon frère disait, des fois on soulève des roches et on se rend compte que oups, il y avait peut-être quelque chose en dessous de ça qu'on n'avait peut-être pas voulu voir. Peut-être que ça a soulevé une roche et il y a quelque chose que tu n'aurais pas voulu voir. Mais voici la bonne nouvelle ce matin. Que vous soyez sauvés ou pas encore. Que vous soyez dans quel état spirituel. La bonne nouvelle ce matin, c'est que même si les réponses aux questions que j'ai pu poser vous font rougir, vous rendent confus, honteux, tout le monde ici, on peut aller à celui qui restaure, à celui qui pardonne, à celui qui nous prend tel qu'on est, puis qui prend nos pieds, qui les met sur le roc de Jésus-Christ, puis qui affermit nos pas. Wow! C'est à lui qu'on peut aller. C'est à lui qu'on peut aller. Et je termine avant de prier avec ces versets que j'ai lus ce matin, puis je voulais juste vous les lire. Car tu es grand, tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Et je glorifierai ton nom à perpétuité, car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Merci Seigneur pour ta parole, merci que tu es présent parmi nous. Seigneur, que ta volonté se fasse, que ta délivrance s'opère au milieu de nous. Tu es le Dieu des délivrances, tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu du surnaturel, il n'y a rien de naturel, d'explicable et de normal dans la vie chrétienne. Seigneur, on veut y goûter, l'expérimenter. Seigneur, c'est toi qu'on veut. On invoque ton nom, ta grâce. Seigneur, dirige maintenant ton peuple qui va s'approcher de toi dans la prière et que tu en sois glorifié au milieu de nous. On te le demande au nom de Jésus. Amen.